Tout ça a commencé en 1995, lorsqu'on m'a demandé d'accueillir ici, en France, à Tram, un groupe de Sénégalais qui avaient des petits problèmes dans la gestion agricole de leur territoire. Et tout ça, c'était dans le cadre d'une coopération décentralisée entre la communauté de communes de Saint-André-les-Alpes et une collectivité locale rurale du Sénégal, à côté de Tambacounda. Donc j'ai accueilli une délégation de femmes et d'hommes sénégalais qui souhaitaient avoir quelques conseils sur l'aménagement de clôtures autour des différents périmètres, comme à l'époque j'étais à l'Office national des forêts et spécialiste en pastoralisme. Je les ai accueillis et je leur ai montré ce qu'il était possible de faire en termes de clôtures pour éviter que les animaux divagants mangent leurs légumes. Je suis parti quelques jours après au Sénégal mettre en place un premier petit périmètre de clôture solaire autour de périmètres maraîchers pour les femmes. Belle affaire, donc financée par la communauté de communes du Moyen Verdon, Saint-André-les-Alpes. Un mois après, il s'est avéré que le panneau solaire a été piraté par le sous-préfet du coin pour alimenter sa télévision. Les femmes m'ont téléphoné en criant et en étant bien malheureuses. Je suis retourné là-bas et depuis, j'y suis toujours.
Quelles sont les valeurs sur lesquelles reposent vos actions ?
Ces premières interventions étaient faites par l'Association régionale du développement local, qui est un organisme qui est basé à Marseille et qui a pour vocation de promouvoir la démocratie participative. Alors voilà, vous avez tout compris. On a mené nos premiers projets de coopération internationale de cette manière-là, c'est-à-dire à l'écoute des populations et pour répondre à leurs besoins et satisfaire les nécessités de base. Ça, c'est l'axe stratégique principal. Par contre, on est aussi animé par une philosophie qui est aussi d'essayer de rééquilibrer certaines injustices dont la plupart de nos membres sont conscients. Permettre que les flux financiers soient un peu plus orientés vers le sud pour qu'on restitue en fait ce dont tous ces territoires ont été spoliés pendant des siècles.
Quels sont les pays dans lesquels vous intervenez ?
Historiquement, au Sénégal, suite à l'accueil de ces femmes et ces hommes dans les années 90. On s'est aussi déployé sur le Bénin, en Algérie, en Kabylie, du côté de Tizi Ouzou, et aussi en Tunisie. Pour l'instant, il y a 4 territoires de projet.
Quelles actions conduisez-vous dans ces pays ?
L'axe fondamental, c'est tout ce qui concerne l'aménagement du territoire. Après, bon, la coopération telle qu'elle est pratiquée par notre ONG concerne l'accès, faciliter l'accès aux populations aux services de base, c'est-à-dire santé, éducation, accès à l'eau, etc. Mais un point fondamental pour nous aussi, le développement économique local. Créer des activités génératrices d'emplois, permettant d'augmenter le niveau de vie des habitants, essayer de réduire l'exode qui, dans un premier temps, dans ces pays-là, par des zones rurales vers la ville et qui ensuite a tendance à les inciter à partir vers des Eldorado occidentaux. Donc la création d'activités économiques génératrices d'emplois est pour nous extrêmement importante.
Quel type d'activité ?
En termes d'emploi, actuellement, le secteur dans lequel on arrive à créer le plus d'activités est tout ce qui concerne le développement rural, agricole, pastoralisme et surtout maraîchage, production donc vivrière de fruits et légumes. Par exemple, sur le Sénégal, aussi bien du côté Tambacounda qu'en Casamance, à Ziguinchor, on accompagne la transition en bio pour des femmes, plusieurs centaines de femmes. Et aussi, on les accompagne de manière à ce qu'elles puissent travailler plus en coopérative, donc plus en collaboration plutôt qu'être en opposition et en concurrence. On instaure, à leur demande, des modèles de coopératives agricoles et maraîchères.
Des actions éducatives aussi ?
Ben évidemment, on a facilité la création de bibliothèques, la création d'écoles maternelles et d'écoles en brousse. En Tunisie, par exemple, c'est très intéressant. Dans le cadre d'un projet de coopération avec la région PACA, on est en train d'intervenir dans tout ce qui concerne la pédagogie numérique, c'est-à-dire permettre à des écoles primaires un peu loin des grandes villes d'accéder à des logiciels pédagogiques.
Tout à l'heure, vous parliez des voyages solidaires. Quel est l'impact sur les voyageurs ?
ICI d'Afrique est tour opérateur équitable et solidaire. On a l'agrément tourisme au même titre que tous les grands opérateurs de voyage en France. Nous sommes partis d'un réseau qui s'appelle ATES, Association pour un tourisme équitable et solidaire, qui regroupe une vingtaine de voyagistes associatifs en France. On est à la fois solidaire du voyageur, mais aussi des territoires réceptifs. Par le biais du voyage, en fait, on essaye d'instaurer une relation de connaissance, d'apprentissage de l'autre et une relation humaine qui dépasse évidemment l'exotisme et la visite pure et simple. Le voyage est un excellent moyen qui fait partie, à mon sens, de la nature humaine. Donc, satisfaire des curiosités de manière à s'enrichir de l'autre. Et grâce au voyage, en fait, on s'est rendu compte que des relations durables pouvaient se construire. Plus de 80% de mes administrateurs dans l'ONG sont d'anciens voyageurs solidaires.
Qui sont-ils, vos administrateurs? Quel type de profil ont-ils?
De tout. Des retraités, des collectivités locales, des ingénieurs en agronomie, des instituteurs, des éducateurs spécialisés. C'est très, très, très variable. Il y a toute la diversité des hommes, des femmes, de toute origine, mais qui ont fait le choix du voyage et qui sont conscients que on a besoin d'apprendre de l'autre et qui partagent aussi nos valeurs que j'exposais précédemment.
Combien de salariés et de bénévoles œuvrent au sein d'ICD Afrique?
Il y a une équipe de 150 à 200 personnes qui sont membres d'ICD Afrique. On a une quinzaine de bénévoles très engagés qui contribuent, qui participent à la vie de l'ONG. Les autres sont là, mais qui apportent des soutiens et des aides spontanées lorsqu'il y a besoin. Par exemple, une personne qui est spécialisée dans les plantes aromatiques fait une mission solidaire de manière à permettre à des femmes au fin fond du Sénégal ou du Bénin de disposer de principes, parce qu'elle bosse à Grasse dans une entreprise de parfums et qui permet donc de produire du savon naturel et qui les conseille dans les productions de ce type-là. Une famille, un père et un fils qui sont très manuels et qui vont mettre en place tout un système d'aménagement solaire dans une infirmerie de brousse. Il y a ce genre donc d'action ponctuelle qui dure ce que ça dure. Et puis après, il y a toute une équipe de 15 à 20 personnes qui soutiennent dans l'administration générale de l'ONG.
Vous fonctionnez avec quelle sorte de moyens financiers?
La plupart, évidemment, ce sont des fonds publics. Une grosse collectivité française, type conseil régional, ou la coopération internationale avec des fonds de l'AFD, ou même des fonds qui sont originaires de collectivités étrangères, comme la coopération belge, la région wallonne, mais c'est également des fondations privées. Voilà, la fondation Raja, intéressant ça. La PDG de l'entreprise Raja, qui est un des plus gros opérateurs en France d'emballage, c'est une femme qui est féministe et qui soutient des projets d'entrepreneuriat féminin. Après, il y a d'autres fondations, d'autres bailleurs. Il y a pas mal de dons privés qui permettent en fait de boucler les projets et les budgets.
Quel est l'intérêt pour les politiques de donner pour ces pays?
Ça, c'est le grand problème de la relation internationale qui permet au niveau des États de satisfaire et de conforter des relations diplomatiques et économiques. Pour les entreprises, c'est à la fois partagé. Il y a de l'altruisme, mais il y a aussi la représentation, donc la renommée de l'entreprise. Et puis, même en termes de relations humaines à l'intérieur même de l'entreprise, c'est intéressant pour les personnels de savoir que l'entreprise a comme ça des actions solidaires à l'international. Ça permet de ressouder l'entreprise. Les motivations des bailleurs sont très, très différentes. Une fondation, par exemple, comme la fondation d'un grand groupe pharmaceutique, comme le groupe Hoffmann et Roche, dont le grand patron est passionné par les animaux, les oiseaux et l'environnement naturel, soutient des projets qui vont protéger l'environnement et les oiseaux, par exemple, et donc les zones menacées. Les motivations sont très variables et très diverses.
Quelles relations entretenez-vous avec les gouvernements des pays dans lesquels vous travaillez?
Le principe fondamental chez ICD Afrique, c'est la non-ingérence. La plupart de nos interventions sont à la demande du territoire dans lequel on va mettre en œuvre les projets. Systématiquement, même si on est interpellé par la société civile, on associe l'administration locale, les gouvernements et les ministères à l'évaluation de la pertinence du projet et ensuite à son exécution et à son évaluation. Le principe de non-ingérence est pour nous mais complètement fondamental. Non-intrusion et non-ingérence. On intervient toujours dans un territoire à la demande d'un partenaire local et avec ensuite la validation des pouvoirs publics.
Êtes-vous confronté à la corruption dans ces pays ?
Oui. Comme en France, j'allais dire, comme ça se pratique un peu partout d'ailleurs dans le monde. Oui, évidemment, ça c'est un gros problème qui est lié aussi au sous-développement, non seulement économique, mais également philosophique et politique, de certains pays dans lesquels on intervient. Mais ça, c'est très fréquent. On essaye évidemment d'y pallier, mais bon, c'est quand même difficile et on doit quand même faire et comprendre ces stratégies-là, mettre en place des moyens de contrôler et d'éviter que ces choses se passent. Pour cela, tous les projets qui sont développés dans tous les pays dans lesquels on intervient, toutes les mises en œuvre sont faites par des équipes de techniciens et d'ingénieurs locaux qui maîtrisent bien les tenants et les aboutissants et les circuits et qui empêchent justement que ces choses se passent en étant clair et franc par rapport à tout ça. C'est-à-dire que c'est pas depuis la France qu'on affecte des financements sur des projets. Les projets sont financés et les mises en œuvre sont faites par une équipe, par un comité technique local.
Compte tenu du flot actuel des réfugiés, est-ce que vous êtes amené à vous entendre reprocher d'intervenir en Afrique plutôt qu'en Europe ?
Oui, c'est arrivé. J'ai eu des fois des réflexions de certaines petites collectivités locales qui ont annulé leur projet d'intervention au prétexte qu'il y avait plus besoin de fonds publics en France ici pour développer et soutenir les projets locaux. Notre intervention, en fait, elle essaye d'anticiper ces situations. Actuellement en Europe, on subit les conséquences d'une politique dramatique qui a duré tout au long du siècle et des deux siècles précédents. On en subit les conséquences, on doit les assumer. Mais ce sont des réfugiés politiques et des gens qui fuient la guerre, la souffrance et la mort et qui viennent protéger leur famille. C'est tout à fait normal de les accueillir. Ce que fait notre ONG, on n'est pas du tout dans ce champ-là. On n'est pas du tout donc dans l'humanitaire, la réponse à des crises de ce type-là. On est vraiment une ONG d'aide au développement qui intervient dans la production de richesses et d'emplois dans les territoires. Évidemment, ça passe aussi par quelque chose qui est fondamental, qui est l'éducation. Donc pour nous, l'école, la bibliothèque, le livre, l'échange et la communication est très importante pour éviter que tous ces foyers de misère se développent.
Je vais revenir sur les réfugiés, puisque les citoyens actuellement sont quelque peu inquiets. Sur votre site, dans votre lettre de septembre, vous soulignez votre indignation par rapport à la manière dont ces réfugiés sont accueillis.
Oui, on aurait aimé un peu plus d'empathie, un peu plus de sympathie et d'amour hein, et de compréhension dans l'accueil de ces réfugiés qui ne sont pas des migrants volontaires, mais qui sont des gens qui fuient la mort, qui fuient la souffrance et la douleur, qui fuient la torture et qui fuient l'oppression. Quand je vois certaines collectivités qui réagissent en parlant de leurs logements sociaux, qui sont pour eux prioritaires par rapport à cet exode, on trouve ça assez étonnant. Donc on souhaiterait qu'il y ait un peu plus de clairvoyance et de justice, de démarche philosophique dans la réaction de certains élus. On ne va pas accueillir ici tout le Maghreb et tout le Machrek, c'est pas vrai. Il y aura quelques dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes qu'il va falloir un certain temps accueillir et aider. Mais ils ne feront pas ça par plaisir, ces gens-là. Il faudra avoir un peu plus de clairvoyance sur la réalité des faits.
Est-ce que vous avez besoin de forces vives pour votre association ou de dons, puisqu'en principe, les ONG fonctionnent en partie avec des dons aussi ?
Alors, on a besoin, oui, évidemment, de militants, de gens engagés, de spécialistes, hein, de conseillers, de gens qui peuvent nous mettre en relation avec des entreprises, des collectivités locales. On a besoin, bien évidemment, de fonds, et c'est très important. Comme nous sommes reconnus d'intérêt général, tous les dons sont déductibles des impôts. Mais ça, c'est pas très important en termes de volume. On a surtout besoin d'ambassadeurs, en fait, qui permettent de sensibiliser des grosses entreprises, des collectivités locales à nos projets, de manière à ce qu'on puisse boucler nos budgets. Très souvent, on a des gros problèmes pour arriver à réunir tous les fonds nécessaires au financement des programmes qui nous sont demandés par nos partenaires là-bas au sud.
Comment voyez-vous l'avenir ?
De manière optimiste, parce que sinon je ne le ferai pas, en coopération internationale. Si on n'était pas optimiste, ben je pense que ce ne serait pas la peine. Hein. On resterait à jouer à la belote et à faire la cuisine et à s'occuper de nous. Je pense qu'on finira par passer cette crise actuelle qu'on connaît avec toute cette exaspération qu'on subit hein, et qui envahit un peu notre vie au quotidien. Dans tout ça, il y a beaucoup de peur, en fait, parce qu'on ne se connaît pas. Je reste optimiste parce que je pense que on finira par comprendre ce besoin, cette nécessité de vivre ensemble et de s'apprendre et de se connaître pour envisager un avenir commun et un peu plus riant que celui qu'on connaît actuellement. Évidemment, dans tout ça, d'abord, le livre, l'école, l'enseignement, l'échange, la communication, c'est très important. Ce n'est que dans l'obscurantisme et dans l'ignorance que peuvent se développer ces foyers de haine. Donc, optimiste, mais à condition de se doter de moyens. Réaliste quand même.
Si je vous demandais en trois mots de lancer un message à nos auditeurs, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Solidarité, d'abord, premier mot évidemment, hein, générosité, apprentissage, connaissance, amour, je crois que c'est un mot important. Savoir attendre, prendre le temps aussi, ne pas vouloir aller trop vite. C'est plus que trois mots. Et puis surtout, solidarité, je le redis pour terminer.